Radio Starbucks.
Morning edition from NPR.
Region San Quinto de House.
Jerusalem, Piperino.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Les autres moyens ont failli, les partis politiques, les associations, les syndicats. C'est un moyen qui ne coûte pas, c'est un moyen qui a de l'impact, c'est un moyen qui ne comporte pas de risque.
Et ce moyen, c'est le boycott du lait, de l'essence, de l'eau minérale, trois marques visées au Maroc en cette période de Ramadan particulièrement trop chère. Le boycott fonctionne très bien au point d'inquiéter les autorités, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. À suivre aussi sous les radars et Frédéric Mettezo en Jordanie qui vacille avec un président de Starbucks qui pourrait bien se lancer en politique avec les Blind Boys d'Alabama bien tristes. 18h50, la minute écolo de Sandy Dauphin en cette journée mondiale de l'environnement et puisque le sans plastique et le vrai thème de cette année, Sandy se demandera si les bateaux qui ramassent le plastique en mer ne servent pas finalement à pas grand-chose. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et la visite de Benjamin Netanyahou en France. En ce moment, beaucoup de contentieux avec Israël et en même temps, aucun risque de fâcherie réelle. Mais avant cela, alors que les ministres de l'Intérieur parlent migrants à Luxembourg en ce moment même, on va se demander jusqu'à quel point l'Italie est en train de changer la teneur du débat. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
On peut toujours faire semblant de regarder ailleurs, pousser des cris d'orfraie. Les Italiens, au fond, c'est peut-être la vertu d'ailleurs de leur vote, sont peut-être en train de nous forcer à avoir, à revoir le débat sur les migrants qu'on ne peut pas avoir frontalement en Europe. En tout cas, c'est compliqué. Nous contentant le plus souvent de fustiger justement les politiques des autres, celles de Viktor Orban notamment. Là, c'est l'Italie. Et peut-être que ça change un peu tout. Aujourd'hui même, je le disais, au Luxembourg, les ministres européens de l'Intérieur sont réunis. Il manque Matteo Salvini, mais qu'il se rassure, il est dans tous les esprits. Bonsoir Michel Agier.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous dirigez le programme de recherche Babel sur la circulation et l'accueil des migrants en Europe. Je vais citer deux ouvrages qui sont les vôtres. D'abord un ouvrage collectif avec Babel qui s'appelle Entre accueil et rejet, ce sont les villes qui font, ce que les villes font aux migrants, pardon, c'est publié aux passagers clandestins. Et puis sous votre direction, La jungle de Calais, les migrants, la frontière et le cap, c'est chez PUF, les presses universitaires de France. L'Italie rebat les cartes, je le disais, nous force à repenser. Est-ce que vous diriez la même chose, effectivement? Parce que quand on parle de l'Italie, le pays fondateur, c'est autre chose que lorsqu'on parle de Viktor Orban ou des Polonais, en fait.
Oui, ce qui est troublant et inquiétant, effectivement, c'est que un parti d'extrême droite, qui est un peu l'équivalent du Front National, se retrouve maintenant au gouvernement et particulièrement pour occuper le poste du ministère de l'Intérieur. C'est que le mouvement 5 étoiles, qui n'avait pas ça dans ses priorités, se met dans son ombre. Et donc, il y a quelque chose d'inquiétant dans l'actualité, on va dire. Mais plus profondément, on se rend compte que les gouvernants européens, les États européens, dans leur réunion au sein de l'Europe, on a du mal à dire l'Europe en tant que telle, ne font que réagir sous l'emprise d'une inquiétude de la montée de l'extrême droite ou bien d'une inquiétude très largement fantasmée ou bien urgentiste, on va dire, de l'arrivée des migrants. Donc c'est une peur puis l'autre. Et on peut s'étonner que les gouvernants ne fonctionnent qu'avec de la peur et beaucoup moins de rationalité et de prévision.
Ça veut dire qu'on prévoit pas, on propose pas finalement, et puis on n'explique pas non plus, en fait, si je vous entends.
Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est assez intéressant, si on peut dire, dans ce qui se passe en Italie, c'est que finalement, ça oblige les États européens à se réunir, à dire on va faire quelque chose. Et puis surtout, moi, de ce que j'ai vu passer là, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est que finalement, ce qui est demandé par l'Italie, c'est de revoir le règlement de Dublin. Revoir le règlement de Dublin, c'est ce que demandent beaucoup d'associations, c'est ce que demandent tous les gens qui réfléchissent un peu à la question et qui disent que ce règlement de Dublin qui donc oblige les personnes à retourner dans le premier pays où elles ont mis les pieds dans l'espace Schengen, à poser leur demande d'asile là, et si ça est refusé, eh bien, n'ont pas d'autre choix. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on joue un peu des catégories contre les autres, si on peut dire rapidement, et donc on se retrouve avec énormément de gens expulsables au nom du règlement de Dublin, et donc avec davantage de temps dans les centres de rétention, ce que Gérard Collomb fait en toute légalité, si on peut dire, puisque précisément le règlement de Dublin le permet.
Donc on appelle ça les Dublinés. Donc ça veut dire, effectivement, c'est bien ce qui est au cœur des discussions. Et d'ailleurs, vous avez raison de le rappeler, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut revenir sur ce fameux règlement de Dublin. Si on y revient, Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Comment ça se passerait dans l'idéal, selon vous?
Moi, il me semble que ça contribuerait, à faire que l'Europe, en tant qu'Europe, se responsabilise. Parce que là, on aurait un challenge. Avec des négociations, beaucoup de choses ont été évoquées. Je crois qu'Angela Merkel l'a dit hier, aujourd'hui. On pourrait négocier avec les pays selon leurs charges, leur capacité économique,
en
l'espace,
etc. On ne peut pas refiler la patate chaude. C'est comme ça que disons les choses clairement. C'est ça que ça veut dire.
Et surtout, moi, c'est comme ce qui s'est passé en fin août 2015, lorsque Angela Merkel a dit on ne peut pas ne pas accueillir, c'est pas possible. Tout d'un coup, moi, j'étais content d'être européen. À ce moment-là, parce qu'on dit, bah oui, on est fort, on peut accueillir, on peut faire tout ça. Et là, on est dans une frilosité, une peur où on n'est pas très fier d'être européen.
Ça donnerait une répartition obligatoire, finalement, y compris à notre corps défendant, si on enlevait le règlement de Dublin. Parce qu'au fond, c'est aussi ce que demandent les Italiens. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Salvini ou Giuseppe Conte, peu importe, qui aujourd'hui a dit qu'il faudrait, en gros, approuver un système obligatoire de répartition des demandeurs d'asile. Ce qu'ils nous disent en creux quand ils nous disent ça, c'est vous nous avez laissé tomber. Il va bien falloir à un moment que vous preniez vos responsabilités.
Oui.
Et on a effectivement laissé
tomber. Et le résultat électoral, je pense qu'il faudrait le regarder dans le détail. On attribue trop souvent, on l'a fait pour l'Allemagne, on le fait pour la Hongrie, on le fait pour l'Italie, on attribue trop souvent la question migratoire à un vote populiste. Moi, je pense qu'il faut regarder lieu par lieu, parce que pour moi, l'Italie est un pays qui a remarquablement, dans la société italienne, organisée en réseau, ce qu'on appelle l'accueil diffus. On pourra y revenir vous voulez.
Allez-y. Donc, ce que vous êtes en train de dire, allez-y.
Oui, l'accueil diffus, si vous voulez, ça veut dire que, au lieu d'avoir cette concentration dans des lieux où on enferme les gens et sans qu'ils sachent très bien ce que ça veut dire, on facilite ce qui existe aussi en France, mais qui n'est pas facilité au niveau de l'État, des formes d'hospitalité villageoise dans les communes, les gens qui s'organisent, les communes qui mettent des maisons à disposition. Il y a le modèle de Riace, du village de Riace qui est bien connu, où finalement un village s'est trouvé comme ça, redynamisé parce que beaucoup d'habitations qui avaient été abandonnées par des émigrés ont été mis à profit pour accueillir des immigrés. Et donc voilà, cette dynamique-là fait que en réalité, la société italienne, elle est plutôt mieux organisée que ce qu'on a en France ou dans d'autres pays.
Aujourd'hui, c'est la Hongrie qui est à la tête des réunions ministérielles européennes. En tout cas, en ce moment, c'est le tour de la Hongrie. En juillet, ce sera l'Autriche. J'ai envie de dire, c'est pas forcément mieux, puisque l'Autriche a fait entrer à l'intérieur de son gouvernement des ministres d'extrême droite et est en train de rejoindre ce qu'on appelle le bloc de Visegrad, en fait, également, qui contient aussi la Hongrie, la Pologne, etc. On va dire une bonne partie des pays de l'Est. Est-ce qu'il est à craindre? Qu'est-ce que ça dirait, selon vous, symboliquement, Michel Augier, si l'Italie rentrer dans ce groupe-là parce qu'elle l'a déjà dit quasiment à demi-mot.
Oui, on joue toujours sur les peurs. Ce que je vous disais, je le redis parce que je pense que on est vraiment sur une très mauvaise piste. Il suffit pas de pointer du doigt la Hongrie, maintenant l'Italie, l'Autriche, en faisant des repoussoirs. Il faut réfléchir à comment est-ce que l'Europe en tant qu'entité peut négocier. Et là évidemment c'est compliqué la politique, mais justement il faut faire de la politique au sein de l'Europe. Et là pour l'instant c'est on va obliger ça, on va interdire ça, un tel nous fait peur, il faut absolument éviter ça. Non, il faut négocier. L'Europe ne fonctionnera qu'en reconnaissant que l'Europe est au milieu du monde et qu'il y a plein de passages dans tous les sens et qu'il faut négocier entre les États européens pour s'organiser, pour accompagner cette circulation et non pas essayer de mettre des murs, de s'enfermer follement.
Alors plein de passages, mais moins de passages aussi, moins de traversées. Alors il y a eu deux drames tout récents, hein, comme il y en a hélas et il y en aura puisqu'on rentre dans la période d'été, ça va être terrible sûrement une fois de plus, mais moins de traversées aujourd'hui. S'il y a moins de traversées, est-ce que c'est parce qu'on a passé des accords avec les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou des pactes avec le diable? Vous voyez ça dans quel sens ou...
Oui, moi je pense que c'est évidemment une part du marchandage qui a été fait avec la Turquie, c'est une part du marchandage qui est fait par la France avec le Niger, qui est fait par l'Italie, qui a été fait par l'Italie avec la Libye. Ce sont des marchandages où, là encore, pour revenir sur l'Europe, je crois qu'on n'a pas de quoi être fier. C'est-à-dire que on externalise nos frontières, comme on dit. On se plaint beaucoup de la Grande-Bretagne qui externalise les frontières à Calais en mettant et en créant cette hypertrophie de la frontière que le camp qu'a été ou que sont en permanence un petit peu les jungles de Calais, parce que la Grande-Bretagne délègue sa frontière, la gestion de la frontière à la France, ben on fait la même chose avec les pays africains. Donc, alors peut-être qu'effectivement les gens ont l'impression que c'est une solution. Je pense pas que c'est une solution. Je pense que là aussi, si on veut tenir compte de l'existence de ces mobilités, de l'existence durable de ces mobilités internationales, il s'agit pas seulement de prendre de la hauteur, il faut changer d'échelle un petit peu. Il faut penser non seulement à l'échelle européenne, mais penser, par exemple, qu'il y a une relation historique entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Proche-Orient. À l'échelle du monde, nous sommes très près, pour les Américains, pour les Latino-Américains, nous sommes très près du Proche-Orient, de la Syrie. Donc, peut-être que la France et l'Europe auraient comme politique possible de prendre la mesure de ce que serait la Méditerranée, l'Afrique, et qui seraient des espaces de circulation dans lesquels on arrêterait de créer la mort des gens.
C'est une mobilité qui est inéluctable finalement, donc il faut aider le flux à venir et à repartir plutôt que d'essayer de créer des entonnoirs, c'est ça que
vous dites? Quoi que fasse Matteo Salvini, Orban ou n'importe quel dirigeant, c'est quelque chose qui est dans le fonctionnement même du monde. Pour que le monde existe, eh bien, il faut qu'il y ait de la mobilité, et la demande d'égalité dans la mobilité va être quelque chose qui va devenir de plus en plus une question sociale, même une question politique. Donc on ne peut pas la régler de cette façon-là. Il faut négocier, il faut peut-être changer d'échelle d'action, de réflexion.
Vous avez entendu comme moi, lorsque le ministre de l'Intérieur chez nous a parlé de benchmarking, la ministre des Affaires européennes a dit à peu près la même chose. Elle a parlé de shopping de l'asile. J'ai envie de vous poser la question comme ça. On imagine bien qu'un migrant, lorsqu'il décide d'aller en Europe, bah oui, il choisit l'endroit où il a envie d'aller en fonction de ses intérêts, non ? Est-ce qu'ils ne le font pas tous, finalement ?
Tout le monde a des intérêts, et n'importe quel réfugié a des intérêts économiques. Vous savez, des historiens ont montré que dans les années 60, des réfugiés qui venaient d'Afrique ou du Maghreb, auraient pu demander l'asile. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient des conditions d'accueil et de liberté de circulation qui ont été depuis remises en cause. Et donc, il n'était pas nécessaire qu'ils demandent l'asile. Bon, dans l'autre sens aussi, c'est vrai, des familles syriennes dont on ne va pas contester, simplement parce que le fait qu'elles sont syriennes, on ne va pas contester leur droit d'asile. Et donc, elles auront une préférence même, on le sait très bien, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, elles auront une préférence pour avoir un statut de réfugié, ce qui ne les empêche pas d'avoir une stratégie économique. Il faut trouver du travail, il faut mettre les enfants à l'école, il faut s'assurer sur plusieurs années qu'on va vivre correctement. Vous savez qu'en France, dans les campements en France, il y a des gens qui sont parfaitement légaux. Il y a des demandeurs d'asile avec les récépissés, il y a des réfugiés avec la carte de réfugié. Donc il y a un état de non-prise en charge, si vous voulez. On ne respecte pas ce droit de la Convention de Genève de 1951 en France, qui consiste à dire, bien sûr, on donne l'asile dans telle et telle condition, mais on assure aussi des conditions correctes pour les gens qui l'ont. Là, on ne les assure pas, donc effectivement, on crée des situations encore plus précaires, même pour ceux qui, éventuellement, aurait eu une reconnaissance du droit d'asile.
Une dernière chose, Michel Agier, est-ce que vous voyez, nous, Européens, être capables de trouver une forme de solution, en tout cas là, peut-être très prochainement, ou est-ce qu'on va, comme vous dites, effectivement, mettre cautère sur une jambe de bois pendant encore longtemps, et d'une élection à l'autre, ou peut-être jusqu'aux européennes? Comment est-ce qu'on peut envisager les choses?
Là, je ne sais pas, c'est les journalistes qui répondent à ces choses-là. Moi, comme chercheur en sciences sociales, je crois qu'il va falloir du temps pour qu'on trouve la dimension à laquelle on peut résoudre ces questions-là. Les petites guéguerres sur le benchmarking ou sur Matteo Salvini à Lampedusa, c'est de la guéguerre quotidienne. C'est pas de la politique au sens où on ferait de la politique en Europe. Et donc, je pense que la question des migrants, en général, la question de la mobilité internationale, en général, c'est une question centrale pour l'Europe comme pour une politique globale, mondiale. C'est-à-dire, c'est c'est ce qui est partagé partout, par tous les pays. Et donc, le challenge, il est important. Et résoudre cette question-là, ça fera faire un pas important dans la, dans la capacité de faire de la politique au niveau européen ou au niveau global. Il y a, à la fin de l'année, un grand sommet sur la question de trouver une solution globale aux migrations. Ça, c'est un challenge important. Il faut y être.
Grand challenge, grand défi. Comme vous dites, ce sera l'occasion de revenir. Michel Agier, anthropologue et directeur d'études à l'EHESS. Merci mille fois de votre passage dans Un jour
Merci
dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite ce soir au Maroc avec ce boycott qui marche au point d'inquiéter les autorités. Le lait, l'eau minérale, l'essence, trois marques et c'est trop cher. C'est ce que disent les Marocains, ils le disent très fort. Frédéric Mettezo nous emmène dans un instant en Jordanie, chez Starbucks et aussi en Alabama. La minute écolo de Sandy Dauphin. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Et cette journée mondiale de l'environnement, grosse préoccupation sur le plastique. Vous vous dites attention, les bateaux qui essayent de nettoyer la mer, ça sert pas grand chose.
Oui, et on verra que depuis une minute, 10 millions de sacs plastiques ont été consommés dans le monde, Fabienne, est-ce qu'ils vont terminer dans l'estomac des tortues et des baleines?
Et on verra ça ensemble, 18h55, le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec un Benjamin Netanyahou qui est en France, on a beaucoup de contentieux mais ça se voit pas.
Il est dans le bureau d'Emmanuel Macron en ce moment même et officiellement on est un peu fâché avec lui mais vous savez quoi, faut pas se fier aux apparences.
Allez, le tour de la planète continue sur France Inter, il passe par Los Angeles. Hills, today is the day. Frédéric Mettezo, bienvenue dans Un jour dans le monde. Vous êtes en train de parler boisson alcoolisée.
Non, je parlais ongles.
Ça s'appelle Today in the Day, en tout cas, et c'est signé Hills sur France Inter. Il est là, le voilà.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimachevo Capillon.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Sous les radars et un jour dans le monde. Frédéric, donc le pouvoir jordanien a cédé.
Oui, il a cédé à la pression populaire. Le peuple jordanien ne s'agenouillera pas. Le peuple veut la chute du gouvernement. Augmenter les prix, c'est enflammer le pays. Voilà pour les slogans. Pendant des jours, ou plutôt des nuits, après la rupture du jeûne du Ramadan, des milliers de personnes ont manifesté contre les réformes fiscales imposées par le FMI à la Jordanie. Hier, le Premier ministre Hani Mulki a fini par démissionner, remplacé par Omar Al-Razaz. Et ce matin, le roi Abdallah demande la révision complète d'un projet de réforme fiscale, car le gouvernement avait décidé d'augmenter les impôts des particuliers et des entreprises après avoir augmenté le prix de l'essence et de l'électricité. La Jordanie fait face à des défis considérables, une dette à 97% de sa richesse nationale, un taux de chômage de 18%, 20% de pauvres et surtout plus de 650 000 réfugiés syriens dans ce petit pays de 10 millions d'habitants. Appliqué à la France, cela ferait plus de 4 millions de Syriens chez nous. Pour l'instant, la Jordanie reste un pays assez stable, allié incontournable des Occidentaux, partenaire d'Israël, pays clé pour l'équilibre de la région à surveiller. Donc,
allez, un café et l'addition. Un grand patron américain quitte ses fonctions, peut-être pour se lancer en politique.
Édition spéciale, c'est la fin d'une époque. Howard Schultz, PDG de Starbucks, quitte l'entreprise et son conseil d'administration. Il vient de le dire dans un message aux employés. Howard Schultz avait pris la direction de Starbucks il y a 37 ans, quand la chaîne ne comptait que 11 établissements. Il y en a aujourd'hui 28 000 de par le monde. D'origine modeste, il a la réputation d'un patron engagé, favorable à l'augmentation du salaire minimum, opposé au décret anti-immigration de Donald Trump. À 64 ans, Howard Schultz ne dit pas s'il compte se lancer en politique, mais dans une interview au New York Times, il déclare « Je suis profondément inquiet de l'état de notre pays. Y a-t-il un moyen pour moi de lui rendre ce qu'il m'a donné ?» Mais pas d'emballement, pas d'emballement. Les médias américains adorent spéculer sur les prétendants à la Maison-Blanche. On a déjà lu la même chose sur Mark Zuckerberg.
Ouais, ça s'est pas très bien terminé pour lui d'ailleurs. Aux États-Unis, toujours une voix du Sud qui s'éteint.
Une voix chaude et grave, Clarence Fountain est mort à 88 ans. Il était le chef de file des Blind Boys of Alabama, cinq chanteurs et musiciens de gospel qui s'étaient rencontrés à l'Institut des Jeunes Aveugles Noirs dans les années 30, quand le sud des États-Unis vivait encore sous le régime de la ségrégation. Les Blind Boys ont chanté pour les droits civiques, pour Martin Luther King. Ils ont joué devant les présidents Clinton, Bush et Obama. Ils avaient collaboré aussi avec Lou Reed, Tom Waits ou Ben Harper. Ça vaut le coup de les écouter. En fermant les yeux.
I'm too close to heaven. Too much
Moi j'ai le bon mec, Ben Harper, est formidable. Allez, hélas, on n'est pas d'ici. Merci Frédéric.
À demain.
France Inter.
À
Doha,
Harare,
Jérusalem,
Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Le mot d'ordre a été lancé il y a plus d'un mois. On ne sait pas très bien comment d'ailleurs, ni par qui, mais l'impact commence très sévèrement à se faire sentir. Le mot d'ordre de boycott lancé sur les réseaux sociaux au Maroc. Trois produits, le lait, l'essence, l'eau minérale, trois marques emblématiques aussi dans le pays. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Stéphanie, démarrage donc sur les réseaux sociaux, mais autant d'impact, ça pour le coup c'est une vraie première au Maroc. Et vous allez nous rappeler quelles sont les conséquences, à quoi ça ressemble surtout tous les jours désormais ce boycott.
Parmi les produits ciblés par le boycott, l'eau minérale Sidi Ali, une source qui coule dans le Moyen Atlas et qui est commercialisée depuis 1933. Ce café du centre-ville de Rabat, le gérant se souvient de débuts timides.
1, 2, 3 clients par jour.
Puis d'un véritable tsunami.
Mais après, c'est devenu... plus, jusqu'à je crois que c'est la totalité des clients refusent de prendre à Sidi Ali. Oui, on a changé de fournisse. Et même pour le lait, il y a des gens qui nous demandent est-ce que vous utilisez le lait central ou bien une autre marque.
Le lait central est détenu presque totalement par Danone, le géant de l'agroalimentaire français. La semaine dernière, le DG de la filiale marocaine s'alarmait des conséquences du boycott. Selon lui, les collectes auprès des éleveurs vont être réduites d'un tiers et le groupe va licencier 800 personnes. Troisième marque concernée, Afrikia, une chaîne de stations-service, en voici une, juste à côté du parking d'un hypermarché. Et c'est vrai que ce matin, ce n'est pas la grosse affluence. Karim, lui, est en train de ranger ses courses dans son coffre. Même s'il se pose des questions, il soutient le mouvement.
Je peux le comprendre, mais pourquoi ces marques particulièrement, je n'ai pas compris. Peut-être parce qu'ils sont leaders sur le marché, je ne sais pas, c'est symbolique aussi, c'est symbolique. J'espère, vis-à-vis des grands groupes, j'espère que le consommateur marocain pourra faire entendre sa voix.
Tu n'as pas acheté du lait central ? Non, le lait c'est du lait.
Centrale, c'est tout le salon qui rythme de Sahatikum.
Les trois marques visées sont leaders sur le marché, mais pas seulement. L'eau minérale est détenue par la famille de l'ancienne patronne des patrons marocains. Les stations essence appartiennent à Aziz Aranouche, une des plus grosses fortunes du pays, le ministre de l'Agriculture depuis plus de 10 ans et l'homme fort du gouvernement. Certains analystes voient dans le boycott un ras-le-bol contre la collusion du monde des affaires et du pouvoir au Maroc, alors que d'autres dénoncent des motivations politiques derrière le choix des groupes ciblés. Pour Mourad, la mobilisation va au-delà de ces trois marques. Le ras-le-bol concerne surtout la cherté de la vie.
C'est avec les Marocains. C'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et la vie augmente, les salaires ils sont bas. Il y a le niveau, il y a les sociétés qui augmentent toujours leurs marchandises. Et c'est pas normal.
Les autorités ont été surprises par l'ampleur de ce boycott. Elles n'ont pas su communiquer, ont parfois envenimé la situation. Un ministre a qualifié d'esservelés les boycotteurs. Un cadre d'un des groupes a même parlé de trahison. Abdelmourid Ben Messaoud Tredano, professeur de sciences politiques, lui, en tire d'autres enseignements.
Sans analyser ceux qui seraient catalyseurs ou initiateurs de ce mouvement. L'opération elle-même, elle est citoyenne. Parce qu'on a tendance parfois peut-être à sous-estimer le comportement des citoyens, vu 3 décennies de répression, vu que dans le subconscient collectif, les gens, il y a une peur qui demeure.
Nous sommes au marché central de Rabat à la mi-journée. Beaucoup de clients font leurs courses pour le dîner de rupture du jeûne. Sur les étals, des poissons bien luisants et, nouveauté, des prix affichés en gros sur les casiers. C'est désormais obligatoire.
Trop cher.
Mais vous vendez du poisson?
Oui, moi je suis vendeur, mais j'ai rien à faire.
Vous trouvez que c'est cher?
Oui, c'est trop cher.
Les mots d'ordre de boycott s'attaquent désormais aux poissons. Laisse-le pourrir ou laisse-le nager, disent les hashtags qui ne comprennent pas qu'avec un pays qui compte 3500 km de côte, le loup ou le calamar se vendent à plus de 20 euros le kilo. Encore plus cher pour les crevettes, au grand désarroi de Souad.
Je suis venue pour voir le prix des poissons. Je n'ai pas décidé encore d'acheter, mais je vois les prix sont exorbitants, sont chers. Sans le ramadan, malgré qu'on a les deux mères, à plus forte raison maintenant pendant le ramadan.
Pour ce commerçant qui affirme ne pas être affecté par le boycott, les prix augmentent pendant ramadan parce que plus de gens veulent manger du poisson. Il ne veut pas révéler ses marges, mais assure ne pas en profiter. Selon lui, il en faut pour toutes les bourses.
Le poisson, ça monte et ça baisse. Les crevettes, le mois de ramadan, ça monte toujours. Ceux qui n'ont jamais mangé le poisson, ils le mangent le ramadan. Vous voyez ? Pourquoi ça monte le prix un petit peu? Et puis, ce qu'il y a de ça, ce n'est pas normal. C'est qu'il n'a pas des moyens pour payer ça. Alors, c'est pas la peine de faire des batailles.
Dans les villes comme Casablanca et Rabat, la sardine au début de Ramadan se vendait 2 à 3 euros le kilo, 3 fois plus que le prix de vente des pêcheurs au marché de gros. Le boycott, là aussi, semble avoir fonctionné. Une dizaine de jours après son lancement, la sardine se vend 1 euro moins cher. Selon le professeur Abdelmourid Ben Messaoud Tredano, il faut désormais compter avec ce genre de mobilisation.
Les autres moyens d'intermédiation ont failli, les partis politiques, les associations, les syndicats, et même les mouvements sociaux ont failli. Cette forme où il y a les réseaux sociaux, donc c'est un moyen qui ne coûte pas, c'est un moyen pratique, c'est un moyen qui a de l'impact, c'est un moyen qui peut-être préserver l'anonymat. C'est un moyen qui ne comporte pas trop de risques.
Hier, la filiale de Danone a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 50% depuis le début du boycott. Concernant l'eau minérale et l'essence, qui sont visées aussi, les sociétés n'ont toujours pas communiqué sur leurs pertes.
50% pour Danone, dites-moi, c'est beaucoup. En tout cas, Stéphanie Wenger dans Un jour dans le monde. Merci Stéphanie. The Neville Brothers sont là, Yellow Moon.
Oh, y'all a moment.
La lune jaune des Neville Brothers sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et Sandy Dauphin est là tous les mardis dans Un jour dans le monde pour reverdir sans se lasser, refroidir la planète. Ce soir, on va essayer d'abord de se débarrasser de nos plastiques. C'est déjà ça de pris, c'est le grand thème de la Journée mondiale de l'environnement. Sandy, malheureusement illustré depuis vendredi par cette baleine thaïlandaise et ses 80 sacs plastiques dans l'estomac. Mettons un peu les pieds dans le plat pour commencer. Tous ces bateaux qui se proposent d'aller laver les océans, enlever les sacs plastiques, franchement, vous vous dites, ça sert pas
à
grand chose.
Oui, c'est un peu à la mode des navigateurs aventuriers qui se lancent dans des expéditions écolo avec l'ambition de ramasser des déchets plastiques. Alors vous allez me dire, les petites rivières font les grands fleuves, mais soyons réalistes, il faudra plus que quelques bateaux ben à ordures pour nettoyer les océans. François Galgani est océanographe, à l'Ifremer.
On sait qu'il y a à peu près 5000 milliards de particules qui flottent, mais que cette partie-là représente la partie très superficielle, puisque la plupart des déchets sont sur les fonds, y compris les plastiques. Donc ce sont des initiatives qui relèvent plus de l'aventure humaine, si vous voulez, avec tout le prestige qu'il y a souvent autour, et qui par contre, sur le plan environnemental, n'ont pas l'impact qu'auraient d'autres mesures beaucoup plus locales.
Donc on a bien entendu, Sandy, l'océan se transforme en soupe de plastique, mais la solution c'est quoi alors ?
Eh bien c'est la prévention, il faut que le déchet plastique n'arrive pas jusqu'à la mer, et pour cela il faut des circuits de collecte, de recyclage, de traitement des déchets efficaces. Le problème c'est que les changements de mode de consommation, notamment dans les pays en voie de développement et émergents, sont allés beaucoup plus vite que la mise en place de ces infrastructures très coûteuse, et on se retrouve avec des montagnes de déchets dont on ne sait que faire. Si on prend la totalité du plastique qui a été produit jusqu'à présent dans le monde, 9 milliards de tonnes, eh bien on estime que seuls 9% ont été recyclés, 12% incinéré. Vous voyez, le reste, on le retrouve bien souvent dans la nature.
Donc, comme les sacs plastiques, on en consomme aujourd'hui quoi 5000 milliards par an dans le monde, c'est ça le chiffre, Sandy ? Ça paraît complètement hallucinant. C'est ce que dit en tout cas un rapport qui a été publié par l'ONU aujourd'hui.
Oui, si tous ces sacs étaient attachés ensemble, ils pourraient entourer la planète 7 fois, toutes les heures, dit ce même rapport de l'ONU. Beaucoup de déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans sont des plastiques qui n'ont servi que quelques secondes, les plastiques à usage unique, tout ce qui est emballage, bouteilles d'eau, les gobelets.
Et de la prise de conscience, donc ça veut dire que ça existe.
Oui, et puis c'est difficile de nier en ce moment quand on voit les baleines dont vous parliez avec l'estomac bourré de plastique. Il y a une prise de conscience. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut bannir le plastique, il a des côtés fantastiques bien utiles. Mais en revanche, l'idée de se passer du plastique à usage unique commence à faire son chemin. Plusieurs pays d'Afrique ont pris des mesures assez drastiques ces dernières années pour interdire les sachets. C'est le cas du Rwanda, pionnier il y a 14 ans, ou encore du Maroc ou du Kenya. En Afrique, l'Agence de l'ONU pour l'environnement fait campagne en ce moment contre les plastiques à usage unique. Son responsable communication à Nairobi, Mohamed Atani.
On appelle la population à refuser tout ce qui n'est pas réutilisable, tout ce qui n'est pas aussi recyclable. Surtout en Afrique, on a toujours utilisé des paniers, on a toujours utilisé des solutions qui sont durables, qu'on a utilisées pendant des siècles. Donc on appelle les populations locales à revenir à ces méthodes-là qui sont les meilleures solutions.
Une directive européenne est en préparation pour interdire les produits plastiques qui ont déjà une version réutilisable ou recyclable, comme les cotons-tiges, les couverts, les assiettes, les pailles. Il faudra aussi vous passer de votre mélangeur à cocktail, Fabienne.
Ah.
Le rapport de l'ONU...
Vous disiez bien que ce serait dur.
Le rapport de l'ONU publié aujourd'hui recense une soixantaine de pays qui, à ce jour, ont pris des mesures similaires. Mais ce rapport dit aussi noir sur blanc que la pollution plastique est d'une ampleur décourageante.
Voilà, ben en tout cas, avant de nous décourager, je vous signale qu'il y a un challenge en cours qui a commencé aujourd'hui, qui va courir une partie du mois de juin. Ça s'appelle No Plastic Challenge et c'est mis en place par une association qui s'appelle No Plastic in My Sea. Et comme ils sont sympas, on les cite. Allez, Sandy Dauphin, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est une visite très controversée que celle de Benjamin Netanyahou qui est à Paris en ce moment même. Il s'entretient avec le président Macron en ce moment. D'ailleurs, si je ne m'abuse, voilà, depuis un peu plus d'une heure. Les deux hommes iront ensuite inaugurer la saison culturelle France-Israël et ça se passe au Grand Palais, donc à Paris. Visite controversée, je le disais, parce que les sujets de contentieux sont nombreux entre les deux pays, mais dans votre monde à l'envers, vous vous dites, ouais, mais ça c'est juste une façade. Il n'est pas du tout question de se fâcher avec Israël.
Ah, officiellement, la diplomatie française est quand même très contrariée. Paris, pas content. Les relations entre les deux pays, qui étaient au beau fixe il y a un an, sont en pleine zone de turbulence. Il faut dire que les contentieux ne manquent pas. En tête de liste, évidemment, l'Iran. Mm-hmm. La France, vous le savez, veut sauver l'accord sur le nucléaire en considérant qu'il permet de surveiller les activités iraniennes. Israël, à l'inverse, se sent menacé dans son existence même par Téhéran et lutte ouvertement contre cet accord. Benjamin Netanyahou est parvenu à convaincre Donald Trump, avec les conséquences que l'on sait, hein, ça n'a échappé à personne. C'est donc un désaccord majeur. Contentieux ensuite sur la répression israélienne à Gaza il y a 3 semaines. 120 morts, 3500 blessés par balle, y compris, faut-il le rappeler, de nombreux enfants. Usage disproportionné de la force a fustigé Paris, non sans raison. Netanyahou n'a pas apprécié. Il persiste à trouver la position française trop complaisante avec les Palestiniens. On peut ajouter dans le décor le sort toujours incertain de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri en détention administrative sans motif officiel en Israël depuis maintenant près de 10 mois, et le soupçon israélien sur une certaine négligence française dans la lutte contre l'antisémitisme. Donc oui, vous voyez, il y a de sérieuses contrariétés. Mais tout ça est un peu littérature par rapport à d'autres paramètres qui sont plus structurants.
Et donc, vous avez prononcé le fameux mot « réalpolitik ».
Vous avez gagné des exemples. Réalpolitik. Benjamin Netanyahou, malgré les 5 enquêtes pour corruption qui le menacent en Israël, est un leader solide. 4e mandat, 12 ans au pouvoir. Il sera bientôt, sachez-le, le dirigeant israélien à la plus grande longévité, devant même David Ben-Gourion, le fondateur du pays. Sa cote de popularité est même en hausse. Réal politique aussi, Israël compte une importante communauté francophone, la France possède la 2e diaspora juive au monde. Réal politique encore, Israël a des alliés puissants, Arabie Saoudite, bien sûr, États-Unis, le soutien sans faille de Donald Trump place Benjamin Netanyahou en position de force. Réal politique toujours, Israël est le seul modèle démocratique de la région, démocratie parlementaire indiscutable, avec une vraie liberté de la presse, malgré la censure militaire. On ne peut pas en dire autant des pays arabes voisins ou de l'Iran, dont le leader Ali Khamenei, soit dit en passant, vient de qualifier l'État hébreu, je cite, de « tumeur cancéreuse ». Bref, du point de vue français, Netanyahou n'est pas la panacée, mais dans la région, c'est pire. Donc tous ces facteurs sont en quelque sorte, si vous voulez, des murs porteurs qui structurent la relation franco-israélienne. Et par-dessus le marché, il y a aussi des facteurs conjoncturels qui sont plus discrets, mais qui sont bien réels.
Et donc là, vous nous parlez d'économie.
D'économie, exactement. Mais pas seulement, vous allez voir. Il y a, c'est vrai, une volonté française de développer fortement les échanges commerciaux entre les deux pays. Ils stagnent depuis une dizaine d'années. Israël n'est que notre 48e partenaire commercial, alors que c'est la plus grosse économie de la région. 3% de croissance, 4% de chômage, une richesse par habitant qui est désormais proche de celle de la France. Il y a donc un vrai terrain à explorer pour des coopérations scientifiques, technologiques, énergétiques, etc. Et puis l'attention d'Emmanuel Macron, ça ne va pas vous surprendre, est particulièrement titillée par le côté Startup Nation d'Israël. Le pays compte, tenez-vous bien, 6000 start-up. C'est le taux le plus élevé au monde quand on le rapporte au nombre d'habitants. Et puis, dernier point, mais non le moindre, il y a les échanges militaires et le renseignement. Ce n'est pas la facette la plus connue de la relation entre les deux pays, mais ils échangent de nombreuses informations en termes de cyberdéfense ou de lutte contre le terrorisme, par exemple au sujet des djihadistes français. Donc là, encore, pas question de se brouiller avec Israël. Il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu.
Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, on parle de vos dents ce soir. Restez avec nous.